Bienvenue dans The Debate, notre espace de confrontation d'idées et de perspectives croisées. 100% des suffrages, 94% de participation. Quand on entend ça aujourd'hui, on pense tout de suite à une dystopie autoritaire, non, Jacques ?
Ah oui, c'est clair, c'est presque un score absurde.
Complètement absurde. Mais replongeons-nous le 12 avril 1959, lors des élections législatives en Côte d'Ivoire. Le parti de Félix Houphouët-Boigny rafle absolument tout. La question centrale de notre échange aujourd'hui, c'est de savoir si ce scrutin spectaculaire était une étape pragmatique, indispensable pour forger la légitimité d'un État naissant.
Ou alors, est-ce que c'était l'étouffement délibéré et vraiment très précoce de tout pluralisme politique ?
Voilà, c'est le cœur du sujet. De mon côté, je soutiendrai que ce fut une manœuvre d'intégration magistrale et même vitale face à la métropole française.
Et moi, je défendrai l'idée que cette journée marque une confiscation pure et simple du pouvoir, un dangereux modèle unique.
Il faut vraiment comprendre l'urgence du contexte de 1959. La priorité n'était pas d'organiser des joutes électorales, mais de réussir une décolonisation sans effondrement. Le parti dominant a conçu cette fameuse liste de l'Union. Plutôt que d'y voir un rouleau compresseur aveugle, moi je la vois comme une vaste fusion d'entreprises.
Une fusion d'entreprises ?
Oui. En fait, pour contrer une offre d'achat hostile de la part de l'administration française. Cette liste intégrait délibérément des planteurs, des syndicalistes et même des colons français. L'objectif, c'était de présenter à Paris un front d'une solidité absolue.
Sauf qu'une fusion d'entreprise, ça suppose l'accord des actionnaires. Et là, franchement, les lecteurs n'avaient aucun mot à dire. Regardons la mécanique de près.
Allez-y.
Parce que le diable se cache dans le code électoral de l'époque. On parle d'un scrutin de liste majoritaire à un tour sans panachage.
C'est le système de l'époque, oui.
Concrètement, pour l'Ivoirien qui entre dans le bureau de vote ce jour-là, ça veut dire qu'on lui donne une liste unique et bloqué, il ne peut pas rayer le nom, il ne peut pas mixer les candidats pour exprimer une nuance. C'est vraiment à prendre ou à laisser.
Je vois l'idée de contrainte.
Et couplé au fait que le maillage militant du parti contrôlait le moindre village, le terrain politique a été artificiellement rasé. Il n'y avait plus d'oxygène pour une alternative.
Mais vous parlez de terrain rasé alors que, sur plus d'1,5 million de votants, il y a quand même eu 1,256 000 bulletins blancs ou nuls. Retournons à la perspective deux secondes.
Je vous écoute.
Ces quelques bulletins prouvent justement que refuser la liste, c'était techniquement possible. Si le but absolu était de forger une fausse élection stalinienne, on aurait simplement annoncé zéro abstention, non ? Cette immense unanimité, c'est pas de la tyrannie.
C'est quoi alors ?
C'était un message diplomatique adressé à De Gaulle et à la communauté française. Il fallait une voix unique pour négocier d'égal à égal l'autonomie. L'effacement volontaire des querelles internes, c'était le seul bouclier de ce territoire.
Ah non, 256 bulletins sur 1,5 million, soyons sérieux. Ce n'est pas la preuve d'une liberté de choix. C'est juste l'épaisseur du trait d'une ingénierie sociale parfaite.
C'est une vision très sévère.
Mais réaliste, hein. Je ne conteste pas qu'il fallait faire front face à De Gaulle. Mais fusionner l'appareil d'État en construction et le parti politique, et ce avant même l'indépendance officielle, c'est pas créer un bouclier, c'est institutionnaliser un monopole de fait. L'indépendance n'exigeait absolument pas la mort du pluralisme. Bâtir sur l'absence totale d'opposition, ça crée une structure factice où la compétition est d'emblée criminalisée.
Vous qualifiez la structure de factice, mais regardons les résultats tangibles sur le terrain. Cette efficacité arithmétique a permis l'élection de 100 députés en une seule fournée, le même jour.
Oui, 100 députés du même bord.
Absolument. Et ces 100 députés ont pu immédiatement rédiger les textes de la Première République sans s'embourber dans des blocages parlementaires stériles. Et le 7 août 1960, face au monde, ils ont pu se lever comme un seul homme pour proclamer l'indépendance. C'est cette cohésion absolue qui a permis d'éviter les guerres civiles et les violences qui ont tragiquement ravagé d'autres pays voisins à la même époque.
Ils se sont levés comme un seul homme, oui, mais précisément parce que personne d'autre n'avait le droit de siéger dans l'hémicycle. La transition a été pacifique à l'instant T, d'accord, mais regardez le prix payé pour les décennies suivantes.
Un prix nécessaire, selon moi.
Ce scrutin d'avril 1959 n'a pas seulement réglé le problème immédiat de la souveraineté, il a figé une formule politique pour les 30 années à venir. Un chef, un parti, un État. La stabilité dont vous parlez a été obtenue en étouffant toute voix discordante dès le berceau de la nation.
Nous touchons là au cœur de notre ligne de fracture. Pour ma part, je maintiens que face aux défis existentiels de la décolonisation, cette manœuvre de 1959 était le prix indispensable à payer pour garantir la viabilité du nouvel État.
Vraiment, hein ? Même construite de toutes pièces ?
Oui, l'unanimité électorale, même construite de toutes pièces, était une arme diplomatique indispensable qui a rempli son rôle à la perfection.
Et moi, je maintiens qu'on ne peut pas utiliser le terme de légitimité quand celle-ci est fabriquée par un système verrouillant toute alternative. Éviter l'effondrement est une chose, mais emmurer un pays dès son premier jour dans un modèle autoritaire en est une autre.
Je vois.
Les conséquences historiques sont trop lourdes pour être simplement balayées par la notion de pragmatisme.
Le désaccord reste donc entier sur les implications de cette efficacité politique. Cette période charnière offre un aperçu fascinant et complexe des paradoxes qui accompagnent la naissance des nations.
Absolument. Il y a encore beaucoup à analyser.
Nous invitons d'ailleurs nos auditeurs à plonger dans le matériel source pour mesurer par eux-mêmes le poids de ces événements et forger leurs propres conclusions. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat.